La chance. Sandra s'en verserait des larmes salées. La ville a vécu. Panama l'a tué il y a 100 ans en épargnant le Horn au transatlantique. Les bateaux ne s'aventurent guère devant le cap. Ils coupent par le canal. Les équipages n'ont plus à se refaire une santé à Valparaiso. La ville s'est assoupie sur son rivage. Rien n'est fatal comme devenir inutile. Cette ville, autrefois, était un hospice avec les bars du port en guise de pavillon de santé. On s'y installait quelques semaines en convalescence. On se remettait à coups de pisco des régissements des 40e. On attendait l'ordre de repartir et c'était une époque où l'on savait attendre. Aujourd'hui, dans les établissements ne flotte même plus le parfum des lieux oubliés. Les Chiliens boivent du vin français en rêvant des États-Unis. Ils ont élu une femme qui discourt sur l'ordre mondial. Les généraux ne s'assassinent plus. Dans la rade, il n'y a que les destroyers qui oublient que le temps passe. Ils tournent, hérissés de canons, ignorant que l'océan est pacifique. L'électricité a conquis la ville. La nuit, les collines brillent. On se bat pour savoir si la ville en compte 42 ou 45. Les spécialistes se déchirent. Les journaux prennent parti. On en discute chez soi. On a les débats qu'on mérite. Ces collines nous hantent jusque dans le sommeil. À Valparaiso, le cauchemar serait d'oublier ses papiers en arrivant en bas de la ville et de négliger de serrer le frein à main une fois remonté. Les maisons escaladent le fil des versants, posées en équilibre. Des écheveaux de fils électriques les relient. On les croirait encordées les unes aux autres. On n'oserait pas tirer sur les câbles de peur que la ville ne s'écroule. Dans le port autrefois, c'était les élingues qui cliquetaient. Elles coupaient les rafales d'un sifflement. Du quai, on voyait l'horizon à travers la treille des écoutes. Un bateau, c'est une harpe de cordage qu'on va parfois faire jouer sur l'eau. Le peintre avait vécu tout ce temps à quai à bord d'un petit sloop en bois qui datait de l'avant-guerre. Le voilier pourrissait derrière les docks. Un matin, en passant, il avait vu la pancarte à vendre avec un numéro de téléphone presque effacé par l'air salin. Il cherchait un lieu calme. Il l'avait acheté, restauré, remis à l'eau. À bord, il avait tout reconstruit avec cette maniaquerie des gens qui choisissent 10 mètres carrés pour univers de vie. Pas un bouton de porte qui n'ait son histoire. Il pouvait vous parler d'une plainte pendant un quart d'heure. Il se noyait dans le détail. On osait à peine respirer. Il avait appelé le bateau l'atelier et, le jour du baptême, il nous avait dévoilé l'inscription gravée sur les moulures de gypse de sa table à cartes. Vent du large comme belle putain, jamais ne se lève matin. Lui-même avait mis la devise à exécution. Il restait endormi jusqu'à midi, se réveillait en crachant ce que la nuit avait distillé, peignait l'après-midi, nous invitait à passer regarder son travail ou à descendre une bouteille, sortait le samedi pour acheter les couleurs place du 21 mai et, le reste du temps, buvait dans son carré l'argent que lui avait laissé sa sœur, la chanteuse populaire Maria Ribeira, morte 35 ans plus tôt d'une crise cardiaque sur scène. Finalement, l'atmosphère du vieux Valparaiso s'était réfugiée sous ce pont. Défilé des marins qui n'avaient plus de bateau, mais beaucoup de souvenirs. Ils faisaient leur portrait en échange d'une bonne histoire. Parfois, l'un d'entre nous, tout jugement esthétique noyé dans l'excès de pisco, achetait une toile. Notre ami n'avait jamais levé l'ancre, mais il peignait toujours la même chose sur de petites toiles carrées, la houle. Il avait inventé une école de peinture, celle qui donne le mal de mer. Depuis quand le sloop n'avait-il pas vogué? Son capitaine lui-même n'en savait rien. On n'avait jamais pu extorquer à l'ancien propriétaire la moindre information. Ce soir-là, les hasards des passagers et des visites à bord nous avaient réunis dans le réduit du carré avec quelques finelles de l'atelier et deux anciens capitaines de la marine marchande, un Chilien et un Argentin qui avaient connu Maria Ribeira à Buenos Aires. On était serrés sur les banquettes. On se saoulait dans un nuage de tabac et le roulis mental nous donnait l'impression de naviguer. La routine. La conversation roulait sur les revirements de fortune. J'avançais que dans les moments désespérés, le sort peut revenir en mascaré et emporter la mise, l'or qu'on pensait tout perdu. Je crois au miracle, je suis un optimiste de la volonté et je professais qu'à moins d'être totalement mort, rien n'est grave. Les deux capitaines opinaient, les autres somnolaient. Le Picot avait rendu le peintre grave. En tant qu'artiste, il tenait à représenter la voie nihiliste. Il disait que le pire était toujours certain, que la vie suivait la pente du déclin jusqu'à ce que retombe le couvercle, que la chance est une drôlesse qui n'aguiche que le riche sur le trottoir de la vie. Des choses de ce genre. Tout ça, la main sur la bouteille, le cigare pendant, les cheveux pleins de gouache. Les capitaines étaient restés silencieux jusque-là. Soudain, le Chilien dit: J'ai vu l'incarnation de la chance. Elle flottait sur l'eau comme une déesse. C'était en mer d'Arafura. On livrait des régimes de bananes indonésiens à perf. On capta un appel australien à la radio. Les gardes-côtes nous demandaient de nous porter vers les îles Wessel. La mer d'Arafura est une petite étendue d'eau chaude, pas très profonde, que j'avais déjà souvent sillonnée. Au temps des glaciations, c'était un isthme émergé. La bande de terre servait de passage entre l'archipel et l'Australie, et lorsque je tenais mon quart, la nuit, je songeais qu'à 200 mètres sous la coque, il y avait des bêtes et des hommes qui avaient vécu, qui s'étaient aimés, qui s'étaient chassés, et que... Tu fais une conférence? Dit l'Argentin. Un voilier avait chaviré avec 6 Australiens à son bord. Ils avaient caboté jusqu'au nord de Wessel et regagné la côte par la mer d'Arafura quand la houle avait forci. Les services de secours avaient reçu un Médé, mais comme ils venaient de Darwin, ils en avaient pour un moment et ils avaient demandé aux bateaux les plus proches de se dérouter. La tempête qui se déplaçait vers l'ouest nous frappa de plein fouet et nous ralentit beaucoup. Lorsque j'arrivai sur les lieux, nous avions une quinzaine d'heures d'avance sur les secours, mais plus d'un jour de retard sur les naufragés. Nous avons cherché longtemps. Le temps s'était calmé, la mer était une plaine vide. Les requins avaient déjà tout nettoyé. Le jour tombait. Nous avons contacté la sécurité australienne pour dire que nous abandonnions. Je m'apprêtais à reprendre le cap lorsqu'un de mes hommes, jumelles en main, a crié: Il y a quelque chose au nord! On a cru à une hallucination. Quelqu'un flotte sur l'eau! On s'est approché. Une femme nous faisait des signes. Elle se tenait assise comme si elle avait été là ce soir avec nous. On a mis la chaloupe à la mer, et c'est au moment de la saisir par les épaules que j'ai vu la tortue. La carapace faisait une tache claire sous la surface. L'animal est resté quelques secondes contre la coque, puis a plongé tristement. La survivante avait été maintenue à la surface par la bête pendant 36 heures. Je ne mangerai plus jamais de tortue, dit l'Argentin. Parce que ça t'arrivait souvent? Dit le peintre. Non, en revanche, les dauphins, j'ai fait depuis longtemps le serment de ne plus y toucher. Ils m'ont été aussi précieux que la tortue à cette fille. Moi aussi, je pense que le ciel réserve des bonnes grâces lorsqu'on ne les attend pas. Les dauphins vous ont sauvé? Dis-je. Des surpiaux, oui. Ramenés à la rive? Non, c'était une partie de pêche avec des Japonais. Il y a 10 ans, j'habitais l'archipel et menais les navires de la compagnie de transport maritime de Kobe. Un jour, on a dû subir une sortie en mer avec le directeur. C'est très japonais, ça. L'entreprise, c'est comme la famille. Il faut s'aimer, se connaître, vivre ensemble. On embarque, petit bateau, matériel flambant neuf. Une journée magnifique. Le soleil, l'eau argentée, la surface déchirée par les carangues. Au moment de rentrer, panique. Des dizaines de dauphins nous encerclent, peut-être 100. Ils donnent du bec contre la coque et nous poussent vers le large. Ils passent des heures à barater l'écume de la queue. La surface se met à blanchir. Imaginez un tapis de dos noir luisant dans un bouillon de crème. Le directeur refuse de mettre son moteur en marche. Je n'ai jamais su s'il craignait de blesser les bêtes ou d'abîmer son bateau. Le jour faiblissait, la mer rosissait. Pendant ce temps, la ville était en train de s'écrouler sous le tremblement de terre. Je ne voulais pas être en reste. J'avais mon récit à ajouter à ce petit monument que nous étions tous les trois en train de dresser à la bienveillance du sort. J'ai une histoire que je tiens de mon père, dis-je. De la bonne fortune? Demanda l'Argentin. Plutôt, oui. On ne veut que des histoires vécues, dit le peintre. Mais je n'ai jamais rien vécu. Le seul bateau où je suis monté, c'est celui-là. Laisse-le raconter, dit le capitaine chilien. Mon père a servi 2 ans sur le Liguria, un navire de la Pacific Steam Company qui transportait de la cargaison en tout genre sous toute latitude. J'ai connu, dit l'Argentin. Un jour, à la veille d'apponter à San Francisco, un marin chinois fut balancé par-dessus bord après une partie de poker. Il avait successivement joué et perdu ses vêtements, sa ration, sa paie du mois, ses économies du trimestre et finalement sa vie. Le capitaine avait interdit les paris sur la vie parce que les effectifs de main-d'œuvre étaient très faibles. Mais la discipline se relâche les veilles d'accostage. Le type aurait dû couler dans le courant froid de la basse Californie. Les assassins signalèrent sa disparition à leur commandant. L'enquête dura le temps de conclure à l'accident et d'inscrire perdu en mer sur le registre à côté de son nom. Le lendemain, à peine le Liguria s'était-il rangé contre le quai, qu'un homme demandait à rencontrer le capitaine pour l'entretenir d'un incident grave. C'était le Chinois. 2 heures après sa chute, un bateau de pêche l'avait récupéré. Il y avait une chance sur des millions pour qu'un bateau passe à sa portée, une sur des milliers pour qu'on l'entende. La vie tenait à ce type, dit l'Argentin. Il y en a que le hasard gâte inconsidérément, dit le Chilien. J'ai rencontré à Salamanque un capitaine russe qui traversait la mer d'Aral en 1962 avec un petit transporteur rempli jusqu'au plat-bord de vin de Crimée. La cargaison était arrivée par le train jusqu'à Aralsk, au Kazakhstan, et devait rejoindre la route de Tachkent. Pour gagner du temps, à l'époque, on coupait par l'Aral. Le navire fit naufrage en pleine mer. 20 ans plus tard, la mer s'était envolée, pompée par les aménageurs moscovites. Le rivage a reculé à 100 km de l'ancienne ligne littorale. Vous connaissez les images des bateaux échoués dans les dunes. À partir de ce moment, les gens ont continué à traverser la mer, mais en camion, en circulant sur le fond asséché et sillonné des pistes. Le capitaine roulait une nuit vers le sud. Il faillit percuter une ancre et tomba par hasard devant son épave. Non seulement le vin était intact, mais il avait pris 20 ans d'âge. On n'avait pas convaincu le peintre. Il nous remercia pour nos efforts. Il ajouta qu'il ne croyait pas un traître mot de ce que nous avions raconté, mais que même si le quart de nos récits était vrai, cela confirmait sa théorie. Nous vivons dans l'imminence du pire. Vos histoires signifient que, parfois, un grain de sable fausse le mécanisme et reporte la chute à plus tard. Convertissez-vous au pessimisme. Cela aide à vivre. On n'insista pas. Après tout, on était chez lui et la politesse de ce côté-ci des Andes veut qu'on laisse le dernier mot à celui qui vous reçoit. On se salua, on se jura de se retrouver vite, on promit de passer voir les œuvres. Les adieux durèrent longtemps parce qu'on ne se rappelait jamais si on s'était déjà embrassé. L'air était doux sur le pont, les collines scintillaient. Je fais quelques pas sur la jetée avec vous, dit notre hôte. En enjambant le bastingage, il glissa, se cogna sur l'angle du plat-bord, tomba sous les pare-battages et disparut dans l'eau. On le repêcha mort. Au fond, il avait raison.